vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, la preuve.
Vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30.
Et donc, on va passer tout de suite au dossier de cette émission, donc avec Martin du comité Tchétchénie. Alors, Martin entrecevait le 15 mars dernier pour parler de c'était la commémoration de la déportation des Tchétchènes par Staline, l'anniversaire de la déportation du peuple tchétchène par Staline. Et à cette occasion, on était revenu sur. Enfin, une grosse partie de l'émission était consacrée à l'histoire ancienne et l'histoire contemporaine de la Tchétchénie. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de la situation des réfugiés de Tchétchènes. Donc, il y a une des.
Vas-y.
Donc, est-ce qu'on. D'abord, avant de parler des réfugiés, on va revenir sur la situation actuelle en Tchétchénie, parce qu'on n'avait pas eu le temps de trop bien poser les bases de pourquoi, quelle est la situation aujourd'hui en Tchétchénie et pourquoi les Tchétchènes sont obligés de fuir et de se réfugier, notamment en France.
Voilà, la dernière émission qu'on avait faite avait été un peu courte et on avait été obligé de passer très très vite sur finalement ce qui nous amène à la situation actuelle, c'est-à-dire la deuxième guerre de Tchétchénie. Alors on va peut-être redévelopper à partir de là, reprendre le fil de cette conversation qu'on avait eue. C'est-à-dire en 99, il y a une deuxième guerre qui s'entame et tu nous dis qu'il n'y a pas de vraie date de début de cette seconde guerre puisque qu'est-ce qui se passe? La Russie décide de reprendre, sans faire de déclaration, lentement, un processus guerrier?
En fait, on voyait les prémices au cours de l'année 1999. Et la vraie guerre est déclenchée en fait en septembre, fin septembre 99. D'abord, il y a eu des incursions de Tchétchènes et de Daghestanais islamistes au Daghestan voisin pour établir une république islamique du Caucase. Et puis la réaction des Russes en retour. Et donc en septembre, des attentats en Russie, à Moscou et dans d'autres régions de Russie plus au sud. Donc c'est en réaction à cette incursion des Tchétchènes et en réaction aux attentats terroristes que la deuxième guerre est déclenchée. En fait, petit à petit, on voit les troupes russes se masser à la frontière, puis passer cette frontière. La guerre se déclenche véritablement au moment où les bombardements vont commencer sur Grozny. On passe aux opérations armées dures, quoi.
Alors, il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées, si je me souviens bien, à cette époque, pour remettre en cause le fait qu'on attribuait aux Tchétchènes tous ces attentats. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense que c'est réellement des guérillas tchétchènes qui ont fait ces attentats ou est-ce qu'il y a une part de manipulation éventuelle dans...
Oui, c'est certain que... on subodore que c'est Boris Berezovsky qui a organisé les attentats. On pense aussi que le FSB a joué un rôle là-dedans, puisqu'on a retrouvé dans un immeuble des explosifs qui appartenaient au FSB, donc le service de sécurité russe, le service de renseignement.
D'où est suivi Poutine, et justement à ce moment-là, il y avait des élections qui se préparaient.
Et les élections étaient en préparation, effectivement. Poutine venait d'être nommé Premier ministre après une valse de 3-4 Premiers ministres en quelques mois. Eltsine cherchait son successeur, il était en pleine affaire de corruption, la famille Eltsine était sur la sellette, il fallait trouver très rapidement une porte de sortie. D'ailleurs Eltsine est parti a démissionné en réalité, il n'y a pas eu les élections ne sont pas tenues au moment où elles devaient se tenir, il n'a pas été jusqu'au bout de son mandat. Donc le contexte était très favorable à la reprise d'une guerre. L'armée voulait prendre sa revanche. Eltsine voulait partir sans faire de vagues et installer un dauphin qui serait capable d'incarner une Russie puissante. On sortait d'une grave crise économique. Il fallait rétablir, l'esprit national russe avec toute sa grandeur. Et puis les Tchétchènes eux-mêmes n'avaient pas très très bien réussi à, se débrouiller avec leur indépendance.
À gagner leur place sur la scène internationale, quelque part, est-ce qu'ils sont devenus, ils n'ont pas réussi à devenir un acteur de référence, entendu sur la scène internationale, c'est ça ?
Non, évidemment non, mais c'est surtout à l'intérieur que les choses allaient mal, c'est-à-dire que petit à petit, les islamistes prenaient de plus en plus de poids. Les modérés comme Masradov ne voulaient pas se détacher trop ouvertement des tendances islamistes parce que c'était les islamistes qui avaient le plus de ressources et qui entretenaient, enfin qui permettaient ainsi d'entretenir des groupes armés puissants. Et on craignait très fortement une guerre civile en se mettant à dos ces forces-là. Donc c'était un contexte favorable à la reprise de la guerre. Et je dois dire que c'était concernant les attentats terroristes à Moscou, les gens qui ont essayé d'enquêter sur la question n'ont jamais pu aller très loin. Ils ont très vite compris qu'il en allait de leur vie. Voilà. Parce que on sait très bien aujourd'hui que ces attentats, rien ne prouvait que c'était les terroristes tchétchènes qui avaient fait le coup.
Alors la guerre est déclenchée. Si on avance à grands pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les Tchétchènes offrent la même vaillance, la même résistance que lors de la première guerre de Tchétchénie, ou est-ce que qu'est-ce qui se passe ? Oui.
Comme je le disais la dernière fois, les combats ont commencé de manière plus brutale en 1999 parce que les Russes savaient très bien ce qu'il fallait faire maintenant. Ils avaient compris que premièrement, il fallait boucler le territoire, et c'est pour ça d'ailleurs que le déclenchement de la guerre s'est fait progressivement. Ils ont d'abord bouclé l'ensemble du territoire, ils ont bloqué les frontières, ils ont installé des checkpoints partout, et ce qui fait que les médias occidentaux n'ont pas pu pénétrer, les médias russes non plus d'ailleurs. Il y avait 3-4 journalistes dans toute la Tchétchénie à cette époque-là, personne ne pouvait pénétrer. Il n'y avait que des gens extrêmement héroïque, on va dire, comme Anniva, par exemple, pour aller couvrir cette zone avec d'immenses difficultés, ce qui fait que d'ailleurs ces gens sont considérés comme vraiment des héros pour la population locale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Grozny a été tout de suite bombardé et très très fortement. Si bien que la résistance n'a pas pu tenir aussi bien qu'elle l'avait fait pendant la Première Guerre. Et la ville de Grozny a été reprise donc, en janvier, février 2000. Et après une résistance acharnée, mais insuffisante, ils n'ont pas pu tenir. Et en plus, ils ont été pris dans un piège absolument abominable. Enfin, on leur avait dit qu'ils pouvaient sortir de la ville. Et en fait, l'axe qu'on leur avait proposé était miné. Donc ça crée de terribles pertes, quoi.
Alors si donc l'armée avance, si on revient sur la scène internationale, il y a les attentats, on avance très vite, mais il y a les attentats du 11 septembre 2001 qui vont là servir à Poutine à se mettre côté l'axe du bien face à l'axe du mal dans la reconfiguration un peu qui se crée suite aux attentats du 11 septembre. Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, tout à fait. Donc je reprends à la prise de Grozny, c'est le début le début de la guerre de guérilla, puisque les Tchétchènes voient bien qu'ils ne tiendront pas les villes, qu'ils seront systématiquement bombardés. Ils partent dans les montagnes pour essayer de mettre en échec les Russes là où c'est possible. Mais à partir de là, les Russes tiennent quand même une très grande partie du territoire, au moins 2 jours. Ensuite, on parle d'une occupation 2 jours et d'une Tchétchénie, on va dire, aux mains des boïviki. C'est comme ça que s'appellent les combattants tchétchènes, de nuit. Mais cette situation... est assez difficile à tenir pour les Tchétchènes, et ça va les emmener, ça va les amener à commettre les premiers attentats terroristes qu'on appelle terroristes, qui sont en général quand même très ciblés à l'époque, puisque on voit des jeunes kamikazes se faire exploser. Par exemple dans un poste de police ou bien auprès des militaires russes, souvent par vengeance d'ailleurs. Et ces actes terroristes vont être ensuite utilisés par Poutine pour dire que finalement c'est lui qui a commencé la première guerre contre le terrorisme avant le 11 septembre 2001. Et tu as tout à fait raison, Poutine a saisi immédiatement la balle au bon lorsque les attentats ont été commis donc à New York. Il a immédiatement téléphoné au président Bush pour lui dire qu'il était tout à fait solidaire et qu'il comprenait le problème parce qu'il l'avait chez lui.
Alors, ce qui est extraordinaire, au vu de ce que tu nous racontes, c'est que le silence de la communauté internationale va se maintenir, voire en partie se transformer un soutien auprès de Poutine dans cet axe du bien.
Alors, les choses sont assez compliquées. C'est-à-dire que jusqu'en 2001, la guerre en Tchétchénie, c'est quand même un sujet qui fâche dans les relations entre la Russie et le reste du monde occidental et dans ses relations avec les pays riches en général. Donc les États-Unis, par exemple, ont une position très critique par rapport à la Tchétchénie en 2000. Et lorsque le président Bush est élu, il a des déclarations assez fermes sur ce sujet. Il y a quand même un lobby assez fort aux États-Unis contre l'attitude de la Russie en Tchétchénie. Parce que il y a encore des gens dans des dirigeants américains qui considèrent que la Russie est l'héritière de l'URSS et qui veulent combattre les restes de totalitarisme là-bas. Alors, les choses changent effectivement en 2001 à cause des attentats terroristes à Manhattan, et puis à cause aussi des liens qui se sont créés entre Poutine et Bush, des liens amicaux même. George Bush disait qu'il avait lu dans l'âme de Poutine en le regardant dans les yeux. Enfin bon, des choses qui peuvent paraître très très naïves, mais qui marchent avec. Enfin, c'est le discours très moralisateur de George W. Bush. Donc, on a eu ce tournant qui s'est produit, et puis les chancelleries. Depuis cette période-là, les États-Unis ne parle plus tellement de la guerre en Tchétchénie. C'est considéré effectivement comme faisant partie de la lutte contre le terrorisme international. Mais en même temps, on ne veut pas trop en parler parce qu'on sait très bien que ça n'est pas véritablement ça. Donc on laisse Poutine le dire sans le dire soi-même. Voilà. Quant à l'Europe, c'est autre chose. Les Européens sont assez divisés sur la question. Globalement, on est quand même sur un consensus pour dire que ce qui se passe en Tchétchénie est grave, il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis, mais que ça reste une affaire intérieure russe. Rien n'est fait véritablement, sauf par le Parlement européen ou par le Conseil de l'Europe, essentiellement le Parlement du Conseil de l'Europe, qui prennent régulièrement, qui font des résolutions sur le conflit en Tchétchénie. Bon, c'est beaucoup de mots et finalement très peu d'actions.
Alors si on retourne en Tchétchénie, militairement, même s'il reste une guérilla, le terrain est gagné par la Russie. Qu'est-ce qui se met en place? Il y a des gouvernements plus ou moins fantoches qui semblent se succéder. Enfin, vu d'ici, qu'est-ce qu'il en est?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 2000, donc la Tchétchénie va passer sous administration de l'armée, puis sous administration tchétchène pro-russe. Un homme qui s'appelle Armat Kadyrov qui va diriger cette Tchétchénie. C'est un moufti soufi qui était d'abord du côté des indépendantistes et qui a retourné sa veste juste au moment du déclenchement de la Seconde Guerre en Tchétchénie, puisque et il avait des raisons de le faire, puisque c'est un soufi, et que ceux qui ont attaqué le Daghestan et qui ont provoqué la Seconde Guerre de Tchétchénie étaient des wahhabites, c'est-à-dire des gens qui sont contre les soufis, des gens qui sont proches, on va dire, du régime de l'Arabie Saoudite, et qui prônent un islam plutôt modernisé et purifié, qui retourne aux origines, alors que les soufis sont des musulmans traditionnels, locaux, qui ont leur propre rite. Et donc lui voyait très bien, l'opportunité de mettre en avant son identité soufie pour contrer les wahhabites qui prenaient trop d'importance selon lui. Donc c'est Kadyrov qui est donc choisi par les Russes. Il a tout intérêt à aller de leur côté. Parallèlement, les Russes organisent donc tout un processus de normalisation politique qui va permettre à Kadyrov, en fin de compte, d'établir un pouvoir légitime et démocratique. Alors, la première étape, c'est donc un référendum qui a lieu en 2003 pour ou contre donc l'indépendance de la Tchétchénie, son rattachement ou son rattachement à la Russie. Et évidemment, c'est le rattachement à la Russie qui est choisi entre guillemets au terme d'un processus électoral complètement faussé. Ce que tout le monde d'ailleurs a reconnu, toutes les instances internationales ou nationales ont reconnu cela. En 2003, dans la foulée, Kadyrov est élu président et on s'achemine vers l'élection d'une assemblée parlementaire. Mais Kadyrov est ensuite tué en 2004 et il faut élire un nouveau président. Cette fois-ci, ça sera Alou Alkhanov, quelqu'un qui est beaucoup moins gênant que Kadyrov, parce qu'il ne représente pas un pouvoir trop indépendant des Russes, et même pas du tout indépendant des Russes, Alou Alkhanov, alors que Kadyrov, lui, mettait en avant un certain esprit tchétchène. Il ne craignait pas de dire qu'il avait été contre la Russie, qu'il considérait que la Russie était tout de même un adversaire, mais que dans les conditions où on était, il fallait trouver des accommodements. Donc, on ne sait pas qui a tué Kadyrov, et ça pourrait bien être le côté russe qui a fomenté l'attentat. Ensuite, après l'élection d'Alou Alkhanov, on est repassé donc au processus parlementaire. Et la dernière étape, donc, c'est en novembre 2005, une élection parlementaire en Tchétchénie. Et là, le président Poutine a dit: ça y est, la situation est totalement normalisée, la démocratie est installée en Tchétchénie.
شافوا الموج على بحلم يا دنيا بلاش تصحي على فين يا موج الشوق مودي والريح بحس جريح بيوعدني ياخدني من حزني
ça se termine tout doucement. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. On est avec Martin du comité de Tchétchénie et on s'était arrêté dans l'histoire de la Tchétchénie au moment où Poutine disait que c'était la démocratie et la paix. Mais tu nous disais en antenne qu'il y avait une très grande partie de la population qui était en fait hors des frontières. Donc avant de parler à proprement parler des réfugiés, est-ce qu'on pourrait revenir sur les raisons qui les font partir, donc la situation présente en Tchétchénie?
Ouais. Alors les raisons, elles ont quand même évolué. Au départ, c'est quand même à cause de... d'une guerre extrêmement violente, des bombardements, y compris des bombardements de gens qui essayaient de se réfugier. D'ailleurs, il y a eu un procès à ce sujet qui est devant la Cour européenne des droits de l'homme, gagné par les requérants tchétchènes. Ces gens avaient le choix de fuir ou bien dans les républiques voisines ou bien ailleurs, plus loin en Europe ou un peu plus près en Turquie et dans les ex-républiques soviétiques. Alors, c'est vrai que beaucoup ont essayé de fuir dans les républiques voisines, Ingouchie, Daghestan, mais surtout l'Ingouchie, parce que le Daghestan avait un petit peu peur des Tchétchènes après leur incursion en août 99. Et les Ingouches se retrouvaient avec énormément de déplacés, puisque... un peu de terminologie, les déplacés, c'est les gens qui se déplacent qui sont forcés de se déplacer dans un pays. Les réfugiés sortent de ce pays pour aller dans un autre. Donc les déplacés étaient très nombreux en Ingouchie, environ 160 000, à la période la plus grave. Et on avait 200 000 déplacés en Tchétchène, en Russie à peu près. La Russie a mené une politique de fermeture des camps en Ingouchie, et elle s'est vraiment accélérée à partir de fin 2003. En 2004, elle était très forte, et les Russes essayaient d'attirer les Tchétchènes déplacés en Tchétchénie, en promettant donc des compensations pour les dégâts causés pendant les deux guerres. Certaines personnes sont rentrées, mais la plupart craignaient quand même ce qui allait se passer. Pour certains, le retour a été très difficile, puisqu'on avait encore à l'époque des nettoyages massifs dans les villages. Hein. Parfois, les troupes russes encerclaient un village et enlevaient un grand nombre de personnes, le plus souvent des hommes, et on massacrait une partie sur place. Donc cette violence-là, forcément, a poussé des gens à partir loin, en dehors des républiques voisines qui leur étaient fermées, en dehors de la Russie où ils subissent des discriminations extrêmement fortes. Hein, ils ne peuvent pas s'installer et trouver un travail, trouver un logement facilement. Loin de là, c'est même parfois impossible. Ils subissent des ratonnades, des pogroms. Donc, ils s'installent plus loin. En Turquie, en Géorgie, dans toutes les autres républiques de l'ex-URSS, leurs conditions de vie ne sont pas assurées. La population locale est pauvre et de ce fait peu accueillante. Le statut de réfugié est rarement accordé. Les gens essaient de fuir plus loin en Europe, là où ils ont des chances d'être mieux accueillis et d'avoir un réel statut qui leur permettra de trouver un emploi, un logement, etc. Voilà, c'est à peu près les raisons pour lesquelles ils fuient.
Mais justement, sur cette question du statut de réfugié qui n'est pas ou peu accordé, pour le mettre en relation par rapport à ce que dit la Russie, justement, qui ferme les camps de réfugiés en disant que la guerre est terminée, en gros, à ce moment-là, ou qui va jusqu'à couper l'électricité dans certains camps en hiver pour inciter les populations à en partir. Il y a eu vraiment une orchestration de la part de la Russie de cette sorte de refus, en fait, dans les républiques voisines du statut de réfugié aux Tchétchènes.
Tu parles des républiques donc de Russie. Mm-hmm. Et donc des déplacés, oui, effectivement, le retour a été orchestré, enfin le retour ou la fermeture des camps plutôt a été orchestrée par les autorités fédérales russes, donc d'une part par des incitations, comme je le disais tout à l'heure, et puis d'autre part effectivement par des mesures de restriction réelles, c'est-à-dire comme tu dis, donc la fermeture de, enfin on prive les gens d'électricité, on prive les gens de soins, on empêche les ONG de travailler correctement, on fait des nettoyages dans les camps eux-mêmes en prétextant qu'il y a des terroristes cachés là. C'est vrai, c'est l'une des meilleures tactiques utilisées. D'ailleurs, ça a créé effectivement des troubles à l'intérieur des républiques voisines parce que les Russes ont essayé d'installer un pouvoir plus proche du Kremlin qu'il ne l'était auparavant, donc ça a créé des tensions à l'intérieur des appareils politiques. les forces fédérales se sont livrées à des violences. En réponse, des groupes armés se sont montés dans ces républiques voisines, comme l'Ingouchie. Et effectivement, en juin 2004, des Tchétchènes et des Ingouches ont mené des raids contre les forces fédérales extrêmement importants, hein, des centaines de morts. Ça a mené, donc les Tchétchènes à considérer qu'ils n'étaient plus en sécurité dans la République d'Ingouchie et à partir. Quoi. Ça a même amené des Ingouches à essayer de se réfugier en Europe.
D'accord. Mais justement, l'Europe, si on aborde maintenant justement la question des réfugiés qui ont essayé de partir en Europe, on aborde aussi la remise en question en fait, du droit d'asile purement et simplement par l'Europe, qui délègue un peu ces questions-là à sa périphérie, notamment à la Pologne, qui, je crois, est une des premières étapes justement des réfugiés quand ils essayent d'aller le plus vers l'ouest possible, puisque c'est là que c'est plus sûr. Et souvent, ils sont forcés de s'arrêter dans des centres de rétention ou des centres d'accueil, comme on les appelle, en Pologne.
Oui, alors, je ne dirais pas qu'il y a une remise en cause vraiment du droit d'asile en Europe, parce que ce n'est pas le cas. Bon, moi, je serais très mal placé pour le dire, parce que les Tchétchènes sont quand même des privilégiés du droit d'asile. Plus de 50% des Tchétchènes obtiennent le statut de réfugié en France. Et je parle du statut, même pas de la protection subsidiaire. On était même autour de 70% en 2005, ce qui est vraiment exceptionnel. Bon, la moyenne nationale, elle serait plutôt autour de 10%, voire moins. Je veux dire, la moyenne des obtentions de statut. Donc le droit d'asile existe bien, mais c'est vrai qu'il est extrêmement entravé aujourd'hui par des règlements, par notamment un règlement européen, le règlement Dublin, qu'on appelle Dublin 2, puisqu'il y a eu un premier règlement Dublin auparavant. Et donc c'est un règlement qui date de 2003, qui a été pleinement appliqué à partir de 2004, et effectivement il bloque le demandeur d'asile dans le premier pays qu'il traverse. Un demandeur d'asile n'a pas le droit de demander l'asile dans plusieurs pays parce qu'on considérait que c'était de la loterie du statut de réfugié. Bon, c'est une idée qui n'est pas complètement stupide, sauf que pour que ce soit vraiment intelligent, il faudrait que le statut de réfugié soit obtenu partout de la même façon et que le droit d'asile soit homogénéisé dans toute l'Europe. Et ce qui n'est absolument pas le cas, puisque pour les Tchétchènes, en l'occurrence, en France, c'est 70%, en Autriche, c'est plutôt 80% de statut obtenu, mais en Slovaquie, c'est zéro. Donc on est vraiment très très loin d'une homogénéisation. En Pologne, le pays le plus traversé par les Tchétchènes, puisque c'est le pays le plus à l'est de l'Union européenne, eh bien, c'est 8%.
Ouais, c'est dans ce sens-là que je parlais d'une remise en cause du droit d'asile, c'est que l'Europe
délègue
cette fonction-là de l'examen de l'asile aux pays qui sont à ses frontières, avec une hypocrisie extraordinaire, puisque ces pays précisément accordent
les plus pauvres.
Très très peu l'asile et ont pas non plus les moyens forcément de l'accueillir.
La Pologne n'a pas les moyens d'accueillir les réfugiés dans les meilleures conditions. Elle fait beaucoup d'efforts parce que les Polonais sont plutôt solidaires de la cause tchétchène, puisque ils ont maillé à partir avec l'URSS et les Russes tout au long de leur histoire. Donc ils sont solidaires, mais en même temps, ils ne peuvent pas mettre tous les moyens nécessaires pour accueillir les gens dans des conditions décentes, leur donner un emploi, leur donner un logement, leur donner de l'éducation pour les enfants, des soins de santé corrects. Et les gens vivent de manière assez, les réfugiés tchétchènes vivent de manière assez misérable là-bas. Alors, mais le problème, il n'est pas. C'est déjà un problème de manque d'homogénéité du droit d'asile, mais c'est aussi que lorsque le règlement Dublin 2 a été mis en application, On a vu arriver des gens en France, des Tchétchènes qui demandent l'asile, qui restent plusieurs mois en France, qui scolarisent les enfants, qui commencent à parler français, qui pensent déjà au métier qu'ils vont pouvoir obtenir et qui obtiennent toutes les aides sociales. Et puis, on se rend compte, enfin la préfecture se rend compte qu'ils sont passés par la Pologne et ou par un autre pays et on arrête tout et les personnes sont expulsées pour certains parce que pour d'autres les gens vont se battre, les comités Tchétchénie locaux ou Amnesty International interviennent, mais le risque que prennent les gens, c'est d'être expulsés donc très très rapidement dans le pays où ils avaient demandé l'asile pour la première fois. Alors en plus de ça, bon, la Pologne n'offre pas la possibilité à la personne de demander l'asile. En fait, la personne est obligée, pour entrer sur le territoire polonais légalement, de signer un papier où elle demande l'asile. Ou bien on ne fait rien signer, on prend simplement les empreintes de la personne, ce qui va permettre de garder la trace de son passage. Et sans avoir rien demandé, cette personne, en fait, est considérée comme ayant demandé l'asile en Pologne. Ça crée en fait des situations où les gens ne peuvent pas demander l'asile dans des conditions correctes. D'autant plus que lorsqu'ils quittent la Pologne sans aviser les autorités polonaises et illégalement, on peut les mettre en prison lorsqu'ils reviennent sur le territoire polonais, lorsqu'ils sont réacheminés sur le territoire polonais. Ce qui est totalement. Ce qui est contre. Les règlements, les conventions du droit d'asile. Donc, on voit des gens qui ont des parcours erratiques dans toute l'Europe parce que ils passent par la Pologne, par exemple. Ensuite, ils essayent de trouver asile ailleurs, en Autriche, là où on leur reconnaît le statut plus facilement, semble-t-il. Alors, ils y vont. Et puis, là, on se rend compte que... Enfin, les autorités autrichiennes se rendent compte que la personne est passée par la Pologne. Alors, on lui dit qu'on ne peut pas... qu'elle ne peut pas obtenir l'asile en Autriche. Alors, elle continue son voyage, elle va en Belgique, et là, à nouveau, on lui dit qu'elle ne peut pas demander l'asile. Elle se retrouve en France. Et donc, on a des gens qui ont fait 5-6 pays, qui connaissent 3-4 langues, et qui n'ont jamais pu trouver une stabilité. Alors, en plus des difficultés qu'ils ont connues là-bas et des traumatismes parfois extrêmement graves qu'ils peuvent trimballer avec eux, eh bien, ils ont en plus les traumatismes de l'exil. Et certains, ils perdent leur raison complètement. On a des cas on a eu un cas de suicide à Nancy, c'était l'année dernière. Et la personne d'ailleurs a été expulsée quand même. Elle a fait une tentative de suicide, on l'a expulsée quand même. Bon, voilà le type de situation qu'on a. Des gens qui se retrouvent totalement sans ressources parce que il faut savoir qu'en France, lorsque vous n'obtenez pas le droit de demander l'asile à l'OFPRA, vous n'avez pas de récépissé de demande d'asile, eh bien vous retrouvez sans aucune ressource. Parce que normalement, un demandeur d'asile à l'allocation d'insertion, c'est à peu près 300 euros par mois. Et là, vous n'avez rien du tout. Donc, c'est des gens qui vont se retrouver en squat, dans la rue. On passe de Grozny au 115, quoi.
Le temps long, mais la vie est courte. C'est vrai que la mort est fourbe. et que les humains ont les dents longues. On peut venir au monde par deux, mais l'on meurt seul. D'ailleurs, chacun est seul dans sa tête lorsque le malheur joue et harcèle. L'esprit qui gémit pour une tranche de bonheur saine. Combien de bonhommes se plaignent d'une visure très fragile ou figure trop très fragile, et que les prêtres agissent en pédophiles. Je trouve ça très tragique. Les gens cherchent l'asile, mais perdent la fibre de la foi pour que l'argent protège leur chair d'argile. Où on se fait pas de pile et des tonnes de teignes déteignent sur d'autres mondes. S'étonne pas, ces hyènes déchaînent la haine sur notre monde. C'est comme ça, l'automne passe, faut qu'on trace aux bonnes places. Même les bornes chassent, déconne pas ou la faune de glace, mec. Évite les rôles de lâche ou la zone t'efface net. Y'a trop de déceptions et de trucs chelous qui poussent à la réflexion. On se pose derrière un spliff quand la vie met la pression. J'agis sous tension, mes frangins prennent la vie comme une sanction. On se pose derrière un spliff quand la vie met la pression. J'ignore si j'aime l'argent tant que je le hais, parce que c'est dur d'être pauvre. Ça prend nez, où que j'aille, je ferai figure de bête fauve. La vie d'un être n'a pas de prix, mais le fait de vivre coûte cher. Et ta patrie se moque bien de ton bout de chair. Mais pour te plaire, ils vont plaire pour t'amener aux urnes. Et si nos rêves prennent la poussière, des armées en hurle, ouais. Faut que désormais on ruse, car y'a trop de mornés. Tous bornés en plus, mec, faut pas finir éborgné ou bordé. Quand le diable qui ne cesse de nous renifler, incroyable. Ils ont sorti une nouvelle vibre mixée. Je dis que c'est encore la preuve d'un respect. C'est comme ces kisses dès qu'ils cognent, un mec sans récépisser. Si c'est coupable ou pas, on t'enferme d'abord. Tant que les frères cherchent un paradis dans l'enfer de la drogue, sans craindre la mort. Là où se croisent des tas de destins, car c'est Dieu pour tous et chacun pour sa pomme en cas de pépin. Y'a trop de déceptions et trucs chelous qui poussent à la réflexion. On se pose derrière un spliff quand la vie met la pression. J'agis sous tension, mes frangins prennent la vie comme une sanction. Derrière un spliff quand la vie met la pression. Le cœur de moins en moins sensible mange devant les infos. Pendant que les uns font l'amour et les autres la guerre devant les enfants. C'est la merde à tout instant, donc fais pas l'aveugle maintenant. Car partout dans le monde y'a beaucoup de bains de sang, t'as vu. Y'a plus de printemps, c'est l'hiver dans les cœurs. Et la peur se ressent jusque dans le regard de mes sœurs. Ouais, tout le monde garde ses rancœurs et les exploits deviennent prédateurs. Mise le pire pour le meilleur et t'envoyer devant le créateur. Tu cries à terre sans que le monde te laisse une seule chance. Et quand on le mate, on se dit qu'il évolue. Mais dans quel sens? Faut prendre conscience que ton passé te suit dans l'avenir. J'en suis d'ailleurs et je suis pas de ceux que les gens admirent. Les temps sont durs, beaucoup font des dépressions. On se pose des questions, comment avoir des gosses sans pression. Dehors ça devient la science-fiction, impossible de faire fiance con. Chaque jour sous tension, beaucoup prennent la vie comme une sanction. Y'a trop de déceptions et trucs chelous qui poussent à la réflexion. On se pose derrière un spliff quand la vie met la pression. Chaque jour sous tension, mes frangins prennent la vie comme une sanction. Derrière un spliff quand la vie met la pression.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est avec Martin et on parle de la Tchétchénie. Moi, je voulais revenir quand même sur sur ce dont tu nous parlais, sur l'accueil par les pays européens et en particulier pour la France, pour ce qui nous concerne, des réfugiés tchétchènes. Il y a eu un certain nombre d'études, de trucs qui ont été faits au moment de Sangatte, quand il y avait encore le centre de Sangatte tout près de Calais, qui montrait quand même que les gens qui arrivaient à Sangatte, qui avaient cet espoir comme ça, comme but ultime d'aller en Angleterre pour X raisons, c'était quand même toujours relativement lié à c'était des conséquences, des dommages collatéraux, on pourrait dire, de la politique internationale. On a vu arriver à un moment donné les types de population, les origines des gens qui étaient à Sangatte, retenus au camp de Sangatte, se modifier. Il y a eu les Irakiens après la guerre d'Irak, et il y a eu des Tchétchènes. Et on voit quand même quelque chose d'assez troublant. C'est-à-dire que s'ils viennent là, c'est bien parce que, entre autres, la France et la communauté internationale n'a pas su prendre ses responsabilités vis-à-vis de la Russie sur la question tchétchène, et que le conflit a porté à, jusqu'à ce que, pour nombre d'entre eux, il n'y ait plus qu'une seule solution envisageable, c'était l'exil. Et une deuxième fois, ils refusent de prendre leur responsabilité en refusant d'accueillir ces gens qui, quelque part, sont là un petit peu à cause de nous, à cause de l'État français, à cause de la démission sur la scène internationale de l'État français. Et ça pose quand même tout un tas de questions sur, et je sais que c'est un peu ce que vous essayez de faire, c'est comment prendre nos responsabilités à minima, au moins en accueillant dignement les Tchétchènes qui arrivent aujourd'hui en France.
Oui, mais c'est tout à fait la raison pour laquelle le comité de Tchétchénie a pas mal insisté sur l'aide aux réfugiés, effectivement, parce que ces gens témoignent chez nous, chez les Français, qu'il y a un conflit qui se déroule là-bas, et puis ils peuvent nous montrer les blessures qu'ils ont, ils peuvent nous parler de ce qui se passe. Et donc aider les réfugiés, recueillir leur témoignage quand ils le veulent, ou les aider à s'insérer plus facilement dans la société française, à obtenir rapidement un statut, c'est à la fois de la solidarité envers des personnes donc qui en ont besoin, et à la fois quelque chose de politique, puisqu'il s'agit de dire aux autorités, voyez, en 2003-2004, les Tchétchènes, c'est le groupe national le plus important de demandeurs d'asile dans les 30 pays les plus industrialisés du monde. Donc il doit bien se passer quelque chose du côté du Caucase si ces personnes sont si nombreuses. Enfin, ça fait exploser les centres d'accueil, les Tchétchènes. Dans certains, on voit énormément de russophones qui sont tchétchènes en réalité. Par exemple, à la CAVDA, la CAVDA, c'est une sorte de foyer pour les demandeurs d'asile qui sont pas encore très avancés dans leur demande, qui n'ont pas reçu de récépissé, qui n'ont pas fait leurs entretiens à l'OFPRA. Donc c'est les tout premiers arrivants. Et il y a énormément de Tchétchènes. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et nous, on insiste là-dessus, parce que c'est vraiment la preuve qu'il se passe quelque chose. Et tu disais, sinon, tu pointais cette responsabilité. Et je dirais que c'était quand même un moyen assez pratique pour les autorités françaises ou européennes, finalement, d'accueillir les réfugiés. Parce que ça permettait de dire, mais voyez, on fait quand même quelque chose pour les Tchétchènes. Systématiquement, on leur donne le statut. On reconnaît ce qui se passe là-bas. 80% des gens tchétchènes ont le statut dès qu'ils disent qu'ils sont tchétchènes. Donc, il y avait un signe de solidarité, et maintenant c'est en train de disparaître, puisque le règlement Dublin bloque l'arrivée de ces Tchétchènes, et ça c'est très important, parce que ça coupe, c'est un des facteurs qui coupe l'Union européenne de la population tchétchène, et qui fait qu'elle se resserre sur elle-même, et elle se resserre là-bas, puisque les Tchétchènes de là-bas n'attendent plus rien, absolument plus rien, de l'Union européenne, des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est tragique et c'est grave, parce que ça veut dire qu'ils vont se tourner vers d'autres. Ils vont se tourner vers des radicaux islamistes. Ils sont en train de le faire, et ça va devenir de pire en pire. Le développement de l'islam radical dans le Caucase, c'est une réalité. C'est pas forcément le développement du du terrorisme, puisqu'il n'y a plus d'attentats terroristes depuis Beslan, fort heureusement. C'est quelque chose qui s'enracine très fortement. Et donc, l'occidentalisme, si on peut dire, je parlerai plutôt de modernisme, enfin, est en train de, ou les tournures plus laïques de la société ont tendance à perdre du terrain. Même les Tchétchènes qui sont réfugiés aujourd'hui en Europe ou ailleurs ont tendance à se replier, à ne plus attendre grand-chose des Européens, et considèrent même, pour beaucoup d'entre eux, que Dublin, c'était contre les Tchétchènes. Donc ça entretient une paranoïa, un renfermement sur soi qui sont très graves.
Mais justement, comment les Tchétchènes réfugiés en Europe, qui sont parvenus à se réfugier en Europe ou qui sont sans papier, quoi, qui n'ont pas le statut, qui sont clandestins, comment est-ce qu'ils s'en sortent précisément actuellement ?
Aujourd'hui, les situations sont très contrastées. On a des gens qui passent dans les pays d'Europe occidentale, je vais dire occidentale, parce que il y a un article tchétchène qui est sorti dans le Tchétchenskoye Obchestvo, société tchétchène. C'est un journal des Tchétchènes qui parle beaucoup de la situation des réfugiés, qui disait que pour les Tchétchènes, la Pologne n'est pas assez à l'ouest. Et effectivement, les gens donc veulent passer dans des pays comme la France ou l'Autriche, et ils y arrivent parfois. Donc là, au cas où ils arrivent à ne pas laisser de traces en Pologne ou dans des pays de l'Est, eh bien, ils demandent l'asile dans des conditions relativement normales. Aujourd'hui, la procédure d'asile est accélérée en France. Et ça se passe plutôt mieux qu'avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces gens-là ne sont pas du tout la majorité. Et on accueille aujourd'hui aux permanences du comité, qui ont lieu tous les lundis de 20h à 22h, on accueille des Tchétchènes qu'on appelle dublinés, parce que ce sont des gens qui subissent le règlement Dublin. Et alors, eux, c'est extrêmement difficile de régler leur cas, parce que le règlement Dublin est très complexe en lui-même. Il y a des délais à respecter. Alors, un Tchétchène qui serait sous Dublin peut se battre en disant que les délais n'ont pas été respectés, que les procédures n'ont pas été respectées, que la notification, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas dit quels étaient leurs droits ou ce qu'on était en train de faire contre eux. Donc, les choses sont très judiciarisées. Et on fait de plus en plus appel à des avocats. Ça coûte cher aux familles, ça coûte cher aux comités de soutien. Donc ça devient de plus en plus complexe. Les gens ont des histoires de plus en plus complexes à raconter, parce qu'en plus, j'ai dit, ils passent par différents pays. C'est un parcours très erratique. Des fois, les gens ne savent pas exactement par où ils sont passés. Ils ne savent pas à quelle date ils sont passés à tel endroit. Et ils doivent raconter tout ça, parce que tout ça est important pour déterminer quel est le pays où ils peuvent demander l'asile. Donc, en plus du dossier OFPRA, c'est-à-dire du dossier qui explique les raisons pour lesquelles ils ont quitté la Tchétchénie, ils doivent aussi se souvenir de tous les détails de leur voyage pour essayer de demander l'asile en France pour obtenir ça, quoi.
Et très très vite, parce qu'on va ne plus avoir de temps du tout, encore une fois. Est-ce qu'il y a des Tchétchènes qui ne sont même pas dublinés, mais qui sont carrément renvoyés en Tchétchénie ou en Russie ?
Alors oui, ça existe. Et il y a plusieurs cas. Le premier, c'est quand les Tchétchènes arrivent par avion parce qu'ils se disent que ça sera peut-être un moyen d'éviter la Pologne. Ils arrivent en France et là, ils sont mis en zone d'attente, leur dossier, enfin leur demande d'asile est examinée très très rapidement. Et si elle n'est pas absolument parfaite, si il y a le moindre problème de traduction, par exemple, ce qui arrive assez fréquemment, ou si l'officier OFPRA pense qu'il a donné suffisamment d'avis positifs pour la semaine, eh bien les personnes peuvent être donc débouté, ce qui conduit normalement à une expulsion dans le pays d'où vient l'avion. Et souvent, par ricochet ou bien directement, ce pays, ça va être la Russie. C'est arrivé dernièrement, un jeune Tchétchène est arrivé, et il était passé par le Liban, mais on sait très bien qu'il aurait été réacheminé du Liban en Russie. Et ça posait évidemment un problème extrêmement grave, parce qu'il risquait tout simplement sa vie.
Allez, une petite virgule joyeuse pour terminer cette émission malgré tout. On était donc ce soir avec Martin du comité Tchétchénie. Est-ce qu'on peut juste donner les contacts de votre collectif, et puis vous faites des permanences le lundi, en deux mots nous donner toutes ces informations-là?
Oui. Donc la permanence pour les réfugiés au comité Tchétchénie, c'est au 21 Terre rue Voltaire, donc le CICP. Donc tous les lundis de 20h à 22h. On peut également donc contacter le comité Tchétchénie au paris@comitetchetcheni.org et aller voir sur le site donc tout ce qu'on peut dire sur les réfugiés, donc www.comité-tchétchénie.org.
Voilà, alors ça, on le retrouvera, on le mettra en lien sur le site des Oreilles Loin du Front. Hein,
ça y est déjà.
Vous pouvez retrouver donc bientôt l'émission de ce soir, et puis l'émission qu'on avait fait le 15 mars avec Martin, la première émission sur la Tchétchénie. C'est sur loldf.free.fr, loldf.free.fr. Et Juliette, pour terminer.
Et on vous rappelle que samedi et dimanche prochain, si vous allez au lieu-dit, vous allez retrouver Martin et tous ses amis pour un week-end consacré aux Tchétchènes ici et là-bas, sur la culture tchétchène et sur la situation actuelle, le conflit, où on en est, etc.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Alors, quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage, et ce soir, pour faire ça, il y avait Juliette, celle du Sud, fière disciple de Guillaume Yom, pour la prise de son. Elle est venue nous expliquer que enculé n'était pas une insulte, mais une pratique sexuelle, et c'est tant mieux. Du coup, s'interrogeant sur leur pratique sexuelle à eux, on retrouvait perplexe et enthousiaste derrière les micros, les Boy Vicky de la radio libre indépendante de gauche avec des bières dedans. Il y avait donc Guillaume, Juliette du Nord et Jérémy. Ce soir, il y avait également Alex, et puis, fièrement dressé derrière la vitre, les deux oreilles bien tendues, le Mozart de la platine CD, que dis-je, le Count Basie de la table de mixage. On avait donc Fred sous vos applaudissements. Donc, on vous l'a dit, pour plus d'informations sur cette émission, vous abonnez à la petite lettre d'information qui vient d'être mise en place. Vous allez sur loldf.free.fr, loldf.free.fr, et puis là, vous pourrez réentendre quasiment 2 ans de nos émissions, les chroniques de Guillaume Yom, même si ce soir il n'en a pas fait, et tout ça. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Echo du Capricorne, puisqu'on retrouve Claudie et Claudia, nos swinger sisters préférées.